Le lendemain, tous les serviteurs interrogés déclarèrent qu'ils n'avaient pas vu d'ermite. Songe ou réalité, cela devait être une communication du ciel, mais elle eut soin de n'en rien dire, ayant peur qu'on ne l'accusât d'orgueil. Les convives s'en allèrent au petit jour, et le père de Julien se trouvait en dehors de la poterne, où il venait de reconduire le dernier, quand tout à coup, un mendiant se dressa devant lui, dans le brouillard. C'était un bohème à barbe tressée, avec des anneaux d'argent aux deux bras et les prunelles flamboyantes. Il bégaya d'un air inspiré ces mots sans suite. « Ha ha, ton fils! Beaucoup de sang, beaucoup de gloire! Toujours heureux, la famille d'un empereur !» Et se baissant pour ramasser son aumône, il se perdit dans l'herbe, s'évanouit. Le bon châtelain regarda de droite et de gauche, appela tant qu'il put. « Personne !» Le vent sifflait, les brumes du matin s'envolaient. Il attribua cette vision à la fatigue de sa tête pour avoir trop peu dormi. « Si j'en parle, on se moquera de moi, » se dit-il. Cependant, les splendeurs destinées à son fils l'éblouissaient. Bien que la promesse n'en fût pas claire, et qu'il douta même de l'avoir entendu. Les époux se cachèrent leurs secrets. Mais tous deux chérissaient l'enfant d'un pareil amour, et, le respectant comme marqué de Dieu, ils eurent pour sa personne des égards infinis. Sa couchette était rembourrée du plus fin duvet. Une lampe en forme de colombe brûlait dessus. Continuellement, trois nourrices le berçaient, et, bien serrée dans ses langes, la mine rose et les yeux bleus. Avec son manteau de brocart et son béguin chargé de perles, il ressemblait à un petit Jésus. Les dents lui poussèrent sans qu'il pleurât une seule fois. Quand il eut 7 ans, sa mère lui apprit à chanter. Pour le rendre courageux, son père le hissa sur un gros cheval. L'enfant souriait d'aise et ne tarda pas à savoir tout ce qui concerne les destriers. Un vieux moine très savant lui enseigna l'écriture sainte, la numération des arabes, les lettres latines et à faire sur le vélin des peintures mignonnes. Ils travaillaient ensemble, tout en haut d'une tourelle, à l'écart du bruit. La leçon terminée, ils descendaient dans le jardin où, se promenant pas à pas, ils étudiaient les fleurs. Quelquefois, on apercevait, cheminant au fond de la vallée, une file de bêtes de somme, conduite par un piéton, accoutré à l'oriental. Le châtelain qu'il avait reconnu pour un marchand expédiait vers lui un valet. L'étranger, prenant confiance, se détournait de sa route. Et, introduit dans le parloir, il retirait de ses coffres des pièces de velours et de soie, des orfèvreries, des aromates, des choses singulières, d'un usage inconnu. À la fin, le bonhomme s'en allait avec un gros profit sans avoir enduré aucune violence. D'autres fois, une troupe de pèlerins frappait à la porte. Leurs habits mouillés fumaient devant l'âtre, et, quand ils étaient repus, ils racontaient leur voyage, les erreurs des nefs sur la mer écumeuse, les marches à pied dans les sables brûlants, la férocité des païens, les cavernes de la Syrie, la crèche et le sépulcre. Puis, ils donnaient aux jeunes seigneurs des coquilles de leurs manteaux. Souvent, le châtelain festoyait ses vieux compagnons d'armes. Tout en buvant, ils se rappelaient leur guerre, les assauts des forteresses avec le battement des machines et les prodigieuses blessures. Julien, qui les écoutait, en poussant des cris, alors son père ne s'en doutait pas qu'il ne fût plus tard un conquérant. Mais le soir, au sorti de l'Angélus, quand il passait entre les pauvres inclinés, il puisait dans son escarcelle, avec tant de modestie et d'un air si noble que sa mère comptait bien le voir par la suite archevêque.